Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne. Bonsoir à tous.
Et dans cette première chronique de cette émission, je vais vous parler de deux romans qui ne sont en fait pas des polars. D'ailleurs, ils ne sont pas édités dans des collections, des éditions estampillées polars, puisque l'un est chez Finitude et l'autre est aux éditions Phoebus. Mais pour autant, on retrouve dans ces deux récits des thèmes, voire des codes qui, si je puis dire, collent parfaitement avec le roman noir. Des destins cassés, des solitudes, des personnes ordinaires, des endroits ordinaires, qui, des situations ordinaires aussi, qui, à un moment donné, basculent et s'enfoncent dans, comment pourrait-on dire, ben on va dire, le côté obscur de la force. Et puis, dans ces deux romans, il y a la tension narrative qui remplace, avec beaucoup d'à-propos, les intrigues les plus tortueuses. Autre point commun entre ces deux romans, l'écriture. L'écriture qui est resserrée, qui réussit aussi bien dans le rythme et la concision, à ajouter à la noirceur du récit. Et comment dire, il y a une espèce de lente urgence.
Tu oxymores donc.
Voilà, on fait dans l'oxymore aujourd'hui. Une lente urgence à raconter des bribes de vie, des lambeaux d'existence. Il serait peut-être temps quand même que je cite les titres des romans.
Ainsi que leurs auteurs.
Voilà, le premier s'appelle « Chaleur ». Son auteur en est Joseph Incardona. C'est le roman qui est édité chez Finitude. Le deuxième s'appelle « Ressentiment distingué ». Il est écrit par Christophe Carlier. Et si vous le suivez, Jacques, si tu suis, c'est donc celui qui est édité chez...
Phoebus.
Bravo.
Bon, dans... je l'ai sous les yeux en même temps, c'est pas difficile.
Voilà, dans les deux cas, on a une atmosphère très particulière due au lieu. Alors, dans Chaleur, c'est une petite ville de Finlande, l'été. Alors ça, vous me direz, rien de très original, pas d'atmosphère particulière, mais on est dans un championnat du monde de sauna, quelque chose de très, donc, étonnant et particulier.
Et ça existe vraiment.
Et ça existe vraiment. Et pour le deuxième roman, c'est une petite île, l'île d'ailleurs avec un I majuscule, une atmosphère étouffante. Des huis clos, l'un le sauna... très chaud donc, l'autre froid, humide, au milieu de l'immense espace qu'est l'océan. Et dans les deux histoires, on a des êtres humains qui sont façonnés par les lieux ou les événements. Et des face-à-face. Dans le roman de Joseph Incardona, on a un affrontement de plus, un énième championnat du monde de sauna, où espère revenir en finale Nico, lui finlandais, star du porno, accro au sexe, grand, musclé, hâbleur, arrogant, sûr de lui. En face, Igor, ex-militaire russe, chétif, maladif, recroquevillé sur lui-même aussi bien physiquement que mentalement. Un être transparent. L'un est entouré, il a une cour, des putes, une fille qu'il adore, une fille, une nana qu'il adore. Pour Igor, face à lui-même, veuf, et il ne veut même plus voir sa fille unique. Mais pour les deux, une immense solitude. Et pour les deux, une rage de gagner, un couronnement en forme de rédemption. Souffrir dans sa chair pour extirper celle de l'âme, vivre la passion jusqu'au bout, passion biblique évidemment. Au fur et à mesure que la compétition avance, la température du sauna augmente. En gros, quelle est la température d'ébullition d'un corps humain ? Quelle est la température d'ébullition du désespoir ? L'écrivain helvète, on rappelle que Joseph Incardona a des origines suisses, s'est servi d'un fait réel, d'un fait divers réel, comme genèse de son récit. Mais Joseph Incardona, à ce fait réel, il y met le feu. Il plonge ses personnages dans les flammes d'un enfer personnel. Igor et ses démons, Nico et les supplices qu'il s'inflige entre le sexe et le drogue. Mais pour aller où ? Comme le dit Christophe Carlier dans le deuxième roman, on ne fait rien d'autre dans la vie que d'aller vers soi. Justement, ce deuxième roman, donc là on arrive dans une île, et face à face aussi, parce que dans une île, personne n'échappe aux autres habitants. On fait le tour pour revenir sur soi-même. Surtout lorsque le facteur Gabriel, nom d'ange annonciateur, commence à distribuer des lettres anonymes, des cartes postales, postées de l'île elle-même. Cette île, anonyme aussi, puisque sans nom. Une, deux phrases dans ces cartes postales, des flèches qui font mouche. et qui empoisonne petit à petit l'atmosphère faussement plaisible de l'endroit, ainsi que les cerveaux. Gwenédam, un gendarme, débarqué du continent, c'est dire s'il est étranger, il y habite, hein, mais c'est quand même, il n'est pas du coin, il tente d'enquêter. Mais enquêter sur une petite île, c'est particulier. Je cite l'auteur. L'enquête attend. Sur le continent, on cherche un coupable comme une aiguille dans une meule de foin. Rien de semblable ici. Sur l'île, l'auteur des faits ne peut pas être un inconnu. Pour lui mettre la main au collet, on peut choisir soit de le confondre, soit d'innocenter tous les autres. Et le flic de s'interroger. Je recite l'auteur. Qui donc sur l'île a l'œil fuyant, la voix fausse et le geste rare? Et l'auteur de distiller le venin du soupçon dans les têtes des insulaires, les vieilles, les habitués du bar. Car enfin, dit-il, une autre manière de réfléchir est de se demander si, chez tel ou tel, la part d'ombre que tous possèdent, intrusive et malfaisante, peut prendre la forme épistolaire, si mesurée, si différée, qui relève d'une cruauté sophistiquée. Ici, la sophistication est aussi dans le style, faussement simple, totalement dépouillé. Des chapitres très, très courts. Certains n'excédant pas, je dirais, le temps d'une idée, d'une pensée. Et pourtant, le temps, il est long sur l'île, quand c'est l'hiver. Et puis, finalement, si on réfléchit, entre les mots, entre le mot « mot » et la mort, il n'y a qu'un air de différence. Et une petite musique que chacun, sur ce bout de caillou, tente d'interpréter à sa façon. Parce qu'il faut bien que le temps passe, hein, il faut bien que le temps trépasse. Je rappelle donc le titre de ces deux romans, donc « Chaleur », Joséphine Cardona, « Chez Finitude ». Je vais te laisser dire le nom du deuxième éditeur.
Phébus.
Pour Ressentiment distingué, et l'écrivain est Christophe Carlier. Voilà un petit peu de musique maintenant.
Eh bien oui, tu parlais de musique juste il y a un instant. Donc on va écouter un extrait d'un album qui s'appelle London Fog, qui est le nouvel album des Doors, qui est sorti fin 2016. Bon, enfin, les Doors, ça fait longtemps qu'ils n'existent plus, hélas. Mais en fait, ils ont retrouvé un de leurs premiers enregistrements en 1966, non pas à Londres, comme le titre London Fog semble laisser entendre, mais à Los Angeles, dans un bar du Sunset Strip, qui s'appelle, je vous le donne en mille, London Fog. Et donc, ils jouent, c'est très court, ça fait une quarantaine de minutes, même pas. Mais
On va pas écouter tout l'album. Hein,
on va écouter un vieux blues de Muddy Waters, il y a plein d'autres l'ont chanté, et ça s'appelle Rock Me, donc voilà, Jim Morrison et ses copains. Rock Me. I want you to rock me. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all.
Et nous étions dans une île avec le roman de Christophe Carlier. Je crois que nous allons rester dans une île, si tant est qu'on peut rester, tout au moins nous allons voler vers cette île.
Eh ben, en fait, je crois qu'ils y vont en bateau, mais enfin, ou même par le pont. Enfin, dans tous les cas, on retourne avec Peter May dans Les îles Hébrides extérieures. Son roman s'appelle Les disparus du phare, il est publié au Rouergue Noir et traduit par son traducteur attitré, habituel, Jean-René Dastugue. Donc, dans un précédent roman, Peter May avait amené ses Écossais à Londres dans les années 60. Là, on revient de nos jours, et sur l'île de Lewis, donc je le disais, dans Les Hébrides extérieures, l'île où se passait la trilogie écossaise enfin, des enquêtes de l'inspecteur Finn MacLeod.
C'était parmi les trois premiers sortis au Rouergue.
Après les quatre Chinois.
Qui se passait en Chine.
Et donc là, en fait, bon, Finn MacLeod, c'était l'île des chasseurs d'oiseaux, mais il n'en sera pas du tout question. En fait, il sera plutôt question d'abeilles dans ce roman. D'ailleurs, c'est aux abeilles que le livre est dédié.
Enfin, tout ça, ça vole. Hein.
Ça vole, exactement. Donc, un certain Neil MacLean se retrouve un beau jour sur une plage, trempé, portant un gilet de sauvetage par-dessus ses habits, la tête dans le sable, sans le moindre souvenir de qui il est ni d'où il est. On pense tout de suite à la BD 13. Sauf que là, le héros n'a pas du tout l'air d'être un ex-commando des forces spéciales. Rapidement, une vieille dame qui passe par là, qui se trouve être sa voisine, sa logeuse, l'interpelle par son nom, Monsieur MacLean, et elle lui donne une lettre. Du coup, il sait au moins son nom, ou à peu près. Il sait où il est, parce que sur la lettre, il y a son adresse, l'île de Lewis.
C'est pratique, une lettre comme ça, parce que c'est déjà un certain nombre de choses.
Puis, un peu après, il reconnaît l'aboiement de son chien, dont il se souvient du nom, Bran. Le temps de boire un bon verre de whisky,
Il se souvient qu'il aime le whisky, apparemment. Même les amnésies les plus profondes.
Exactement. Il reçoit la visite d'un couple de voisins, dont la femme est, disons, comment dire, très attentionnée à son égard. Et il va commencer ensuite une longue quête de son identité, de son être, de qui il est vraiment, car la maison dans laquelle il habite, du moins dans laquelle un certain Neil MacLean habite, est étrangement vide de tout objet personnel. L'ordinateur ne contient quasiment rien. Puis, par bribes, les souvenirs vont revenir. Il se rend compte qu'il s'y connaît en abeilles, qu'il sait où sont les ruches, et il sait aussi comment s'en occuper. Mais cela ne lui dit pas pourquoi et comment, pourquoi les abeilles sont dans cet endroit-là. C'est un coin complètement perdu dans la lande de l'île de Lewis.
Est-ce qu'il y a du miel de bruyère, sûrement?
Il y a du miel, certes, mais il se demande bien pourquoi elles sont là, comment il sait s'en occuper. Il se demande même, finalement, si son nom est vraiment Neil MacLean. Puis la mémoire, petit à petit, évidemment, tout au long du roman, va lui revenir par bribes. Et notre naufragé découvrira de bien belles saloperies qui seront révélées ici par le vent, la pluie, les vagues. L'île de Lewis, c'est très animé du point de vue météorologique. Et surtout, on se rendra compte que les abeilles lui apporteront quelques réponses. Les abeilles dont on sait que leur survie dépend la nôtre, plus ou moins à plus ou moins brève échéance. Peter May fera aussi, comme il l'affectionne, un petit retour dans le passé, avec les gardiens de phare, ceux du titre, qui ont disparu de leur îlot sans que personne ne sache jamais pourquoi. Le saura-t-on à la fin du roman ? Je vous laisse le découvrir. C'est un roman absolument sans temps mort, au rythme très enlevé. Un thriller, en quelque sorte. Les événements, les rebondissements entraînent le lecteur à la suite de Neil MacLean dans les coins et les recoins de cette île, de ces îles, en fait, désolées mais majestueuses, qui, en fait, tout autant que Neil sont, enfin, l'île est aussi le héros de ce roman. Donc, il y a, vous l'avez peut-être compris, un petit côté écolo avec les abeilles et la nature. C'est une espèce de un thriller vert, on va dire.
Du noir dans le vert. Pour du noir dans le vert. Je crois que c'était le titre d'un festival qui était consacré justement à ce type de littérature.
Mais c'est une histoire noire aussi. C'est pas aussi simple ou bluette que ça pourrait le laisser croire. D'autre part, Peter May n'oublie pas tout au long du roman de nous donner quelques conseils sur les bons whiskies de la région. Et il y en a. Et même sur les quelques coins à visiter.
Il en connaît un rayon.
Il en connaît un rayon, c'est sûr.
Oui, c'est le rayon de, oui, pour les abeilles, oui, bien évidemment. Il va falloir que je la place, celle-là.
Et il nous donne même quelques coins à visiter, si l'envie nous prenait d'aller faire un petit tour dans ces magnifiques, mais très ventées et très humides, îles Hébrides.
Extérieures,
bien sûr. Hein, bon, alors, de toute façon, il faut passer par les intérieurs pour arriver aux extérieurs.
Hein. Oui, mais c'est plus vanté.
Voilà. Une des Hébrides intérieures, c'est l'île de Mull of Kintyre que chantait notre ami Paul McCartney. Donc, je rappelle, Peter May, Les Disparus du Phare, publié au Rouergue Noir.
Et voilà, on se retrouve dans quelques instants après les infos.